Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 enfin dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à tous et à tous. L'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio, sur RMC, à la télévision, sur RMC Sport News. L'After, la seule émission en France, en Europe, dans le monde, en direct, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Eh oui, messieurs. Casting du soir. Tiens, une équipe de Noël d'ailleurs. Bonsoir, Jonathan Macardy.
Salut les amis.
Ah oui, c'est vrai, c'était à Noël, toi. Tu
sais pas, Noël. Est-ce que tu sais pourquoi mon costume est vert ce soir?
Mais je m'en fous.
Non mais je vais te le dire, mais tu t'en fiches, parce que demain c'est le retour du notorious Conor McGregor.
Oui, Conor McGregor.
Qui est cet homme? Conor McGregor.
Tu vas te faire insulter, Daniel Perry.
Allez.
C'est une légende du MMA.
Ah, okay,
l'UFC.
D'accord.
Voilà. Un Irlandais.
Un mec qui parle beaucoup, hein, c'est ça?
Ouais, il parle énormément, qui casse des tables en conférence de presse.
Mais qui est champion roule plume, champion léger.
Voilà.
Et qui prend 80 millions demain.
Et vous avez reconnu la voix de Damien Perrinel. Bonsoir, Damien.
Et bonsoir tout le monde, un plaisir de vous retrouver.
Dans l'after, évidemment, Damien est totalement élégance after compatible.
Exactement.
T'as vu ça, la classe?
De la part de Jonathan, c'est Nico, c'est un compliment.
Ouais, merci. Style très scottish.
Ouais, c'est très bien.
Très scottish. Damien Perrinel. Tiens, d'ailleurs, regardez, on a prévu ça sur RMC Sport News. Damien ressemble furieusement à un acteur français. On va montrer ça si on l'a. Il s'appelle Olivier Martinez. Vous vous rappelez, le hussard sur le toit notamment?
Ouais.
Est-ce qu'on l'a là en télé? Regardez ça. Il y a un truc.
Non, c'est juste les cheveux
si,
en fait.
Mais si,
il prend.
Dis.
Beau gosse, Martinez, c'est sûr.
Bien sûr.
Mais Damien est très beau gosse, mais c'est juste les cheveux. Vous n'avez pas la même tronche.
Qui est l'ex-femme de Olivier Martinez déjà?
Isabelle Jenny, non? Quoi? Sophie Marceau, non, je sais plus.
Pas Jessica Alba, non?
Ah, ou, peut-être, on va chercher. Recherche en régie, s'il vous plaît, l'ex-femme d'Olivier Martinez.
Après, si tu veux.
Voilà pour les présentations, messieurs. Ce soir, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit pour l'after du vendredi soir. La qualification 3-0 de l'OM face aux amateurs de Granville à l'instant. Appelez-nous, supporters marseillais. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu ce soir à l'OM? L'OM, hein, sans attaquant, évident. Je trouve.
On en parle
dans un instant. Et puis également quelques infos mercato. On parlera de Karl Toko Ekambi. C'est chaud avec l'Olympique Lyonnais. Ça devrait se faire. Et puis d'autres infos transfert. Bien sûr, tiens, avec un Sud-Coréen annoncé il y a quelques minutes arrivant à Montpellier.
Ah ouais.
Annonce étonnante. Si vous avez RMC Sport News, mettez-vous devant la télé. Vous allez voir que Montpellier a annoncé l'arrivée de ce joueur. Un brin clicheton. L'after est là, bien sûr. Et les 3 points aussi. Jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Allez, Jonathan.
Premier point, bravo Granville, parce que même si le score peut paraître lourd sur le papier, dans le contenu, j'ai aimé les intentions de jeu de cette équipe qui essaie de ressortir les ballons proprement de derrière, qui essaie de construire, de proposer du jeu. Pas tomber dans le cliché du match de coupe amateur contre une grosse équipe de Ligue 1. Donc, bravo à eux. Le deuxième point, c'est que même si le score est flat et de 3-0, je trouve que le score est très flatteur pour l'OM. Dans le contenu, ce soir, on n'y était pas. Et oui, je dis on, mais maintenant, j'assume. Et Marseille, de plus en plus dépendant de l'état de forme et des performances de Dimitri Payet, sachant qu'au prochain match il ne sera pas là. Et troisième point, et oui, je suis inquiet pour mon Pipa, je suis inquiet pour Dario Benedetto. Je pense que ça fait depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois, où il sous-performe. Je pense qu'il est totalement rôti physiquement et qu'il faudrait un petit peu le mettre au frigo, qu'il fasse du frais pour pouvoir le retrouver, parce que là ça va pas du tout.
Damien.
Eh bien, on a vu ce soir, typiquement dans un match de Coupe de France, les carences de l'OM, qui dès que cette équipe joue contre un bloc bas, c'est difficile pour eux de faire la différence. D'ailleurs, ils se trompent pas, hein, quand ils jouent contre Angers, ils laissent le ballon à Angers, comme ça au moins c'est eux qui jouent en bloc bas, ils peuvent faire des contre-attaques. Premièrement, deuxièmement, Granville, parce qu'ils sont restés fidèles à leur principe de jeu, à leur projet de jeu, à savoir repartir de derrière. Alors même si parfois c'était trop ambitieux, voire exagéré et à la limite de l'arrogance. Bravo à eux, parce qu'en effet, ils ont pas que bétonné, ils ont quand même joué leur coup à fond. Et le troisième point qui a rien à voir avec ce soir, mais c'est Véronique Rabiot. Et là, franchement, grosse dédicace à Véronique Rabiot, parce que là où il n'y a pas forcément à trouver des poux dans les cheveux de son fils, elle y arrive quand même, en fait.
Ben voilà, le décor est planté. On est ensemble pendant quasiment une heure, bien sûr, jusqu'à minuit avec Jonathan et Daniel. Je vous rappelle également
Daniel,
dans quelques minutes.
Damien.
Damien Perrinel, mal, ça fait honneur. Daniel, en fait, tu vois.
Mais est-ce que Damien ne ferait pas deux fois la taille de Daniel aussi? En plus, c'est un peu difficile, tu vois, de.
moque de la taille de Daniel Riolo.
Non, mais c'est vrai. Non, mais
tu vas avoir des problèmes.
Un des fondateurs de l'After.
J'ai beaucoup de respect.
Quelle insolence, Jonathan.
Je respecte Daniel de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Mais c'était juste, voilà, c'est difficile de les confondre quand même.
C'est qu'il m'attaquait à sa taille. Bref.
Pas à sa taille, c'est un fait.
On aura la conférence de presse tout à l'heure de André Villas-Boas. La dernière fois qu'il a parlé, cet homme-là, eh bien, ça a beaucoup fait parler pendant 48 heures.
Bazooka.
Tiens, je veux bien ton avis là-dessus parce que t'as pas fait d'after encore depuis la conférence de presse d'André Villas-Boas il y a deux jours seulement où il s'interroge sur son avenir à l'OM. Le 32-16, le hashtag RMC Live, écrivez-nous. Vous allez sur rmcsport.fr, l'application Direct Studio. Vous nous écrivez, on lira vos messages, posez vos questions à Jonathan et à Damien. Messieurs, Alvaro Gonzalez, Radonjic, Payet sont les buteurs marseillais.
NR7.
Ce soir, on accueille Nono, supporter de l'OM au 32-16. Bonsoir Nono.
Bonsoir, meilleurs
voeux
et bonne santé surtout.
Et ouais,
merci Nono.
Merci mon pote.
Nous reste 13 jours pour souhaiter les voeux.
On te souhaite quoi à toi Nono?
Ah ben, qu'on soit en Coupe d'Europe.
Allez, à la bonne heure.
Et puis une chose, en premier, je voudrais dire une chose, c'est passer aussi une bonne année et meilleurs voeux à tous mes amis de Savallier, la Drôme, voilà.
D'accord, ok, très bien.
Voilà,
bonne année à eux.
Merci bien. Bon, je vais parler un peu du match. Non, avant, je ne te dérange pas, je parle un petit peu de l'histoire de Villas-Boas, 30 secondes.
Commence sur le match, on parle à Villas-Boas après, vas-y.
Ah d'accord, ok. Bon, franchement, c'est vrai que je voyais un score un peu plus élevé parce que bon, c'est vrai que en face c'est pas une grosse équipe, je veux dire, voilà. On méritait de marquer 2-3 buts en première mi-temps, voilà. On a bien joué, franchement. Il y a rien à dire. Mais ce qui est dommage, c'est que moi je pensais qu'en fin de compte, il aurait mis la première équipe au début. L'équipe type au tout début. Avec Manda dans les cages, voilà, je veux dire, l'équipe normale, je veux dire. Allô?
Hey Nono, tu nous entends? Je te disais, ouais, alors bon, on sait que de toute manière, les coupes, c'est Johan Pelé qui les joue, il faut bien qu'il ait des matchs du temps de jeu, c'est un gardien qui n'est pas déméritant, qui est même un bon gardien, un très bon gardien remplaçant. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, Nono, c'est que moi, je pense pas que Marseille méritait vraiment de marquer en première mi-temps. Je pense que Marseille a pas été très bon. Marseille a beaucoup eu mal.
Excusez-moi, on avait quand même des actions, on avait quand même des frappes de balle, le gardien.
On avait des frappes, il n'y avait rien de très tranchant, je trouve qu'on a eu beaucoup de mal dans les 30 derniers mètres à justement être tranchant, à faire des différences. Et là où tu vois Damien, je rejoins Damien sur le point qu'il a énoncé dans ses trois points, c'est que oui, l'Olympique de Marseille, malgré son bon classement, a quand même du mal à faire le jeu contre des blocs bas, a quand même du mal à trouver des solutions et à accélérer, surtout dans les 30 derniers mètres.
Oui, on joue pas pareil, c'est vrai, on joue pas pareil. Ouais. On joue vraiment différemment, je sais pas, on s'est dit, voilà, c'est un petit club et tout, on va jouer tranquille, je sais pas, voilà. On tire de loin et mais... tout, voilà, on fait des belles actions des fois, franchement, et voilà, ça aboutit pas, dis-moi.
Regarde, t'es d'accord avec moi quand même que ce soir t'avais tes conditions qui étaient optimales. C'était pas un traquenard du tout. Tu joues contre une équipe. Tu joues sur une galette. Tu joues contre une N2. Tu vas quand même pas me dire que t'as besoin de ton équipe type pour montrer autre chose que ce que t'as montré.
Damien, je rajoute un point. Tu joues contre une N2 qui ne joue pas le match de coupe de la petite équipe, qui essaye de proposer quelque chose.
Qui met pas le bus. Et je trouve que c'est d'autant plus. Tu dois récupérer des ballons plus haut. Tu dois mettre du rythme. Et au-delà de ça, moi, ce qui me choque ce soir, c'est surtout l'apport des latéraux. À partir de quel moment t'as eu des débordements des latéraux qu'on a trouvé ces joueurs-là dans le dos de la défense?
Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de centres, à part au corner, les corners.
Attends, Jonathan, puisque c'est un peu ton chouchou là, Sakai.
Franchement, il est disparu
depuis quelques temps.
Je vais vous dire. Sakai,
il est où?
Je vais vous dire le problème.
Pour te paraphraser, c'est son frère qui joue en ce moment à Marseille.
Non, mais alors, Hiroki Sakai, je vais le reconnaître volontiers, n'est pas bon du tout depuis le début de la saison. Je pense qu'il est très mauvais même. Il n'a plus aucun apport offensif. Défensivement, il est plus aussi sûr qu'avant. Et je pense simplement que c'est le même problème qu'avec Benedetto. Non, juste laisse-moi terminer, tu vas voir. C'est que je pense simplement qu'il est rôti, bouilli, friconfi. Il a enchaîné les compétitions. Que c'était la Coupe du Monde. Après, retour la saison. Après, il a été faire la Coupe d'Asie. Ouais. Tout de suite, il remet dans l'équipe. Il est friconfi, Hiroki. Il est friconfi. Donc je pense qu'à un moment, que c'est difficile parce que l'effectif est trop court, tu ne peux pas te le permettre, parce que Bounassar, voilà, il est pas, exceptionnel. Il faudrait, c'est le drame de cette équipe-là, c'est que Villas-Boas fait du bon travail, je trouve, dans l'ensemble, mais que l'effectif est tellement court que des joueurs qui sont friconfis, et à raison, Sakai parce qu'il a enchaîné les compétitions, Benedetto parce qu'il a repris très vite après sa blessure, tu peux pas les faire tourner, tu peux pas reposer, et tu tires sur la corde, tu tires sur la corde, et t'as un effet pervers qui fait que les joueurs qui sont très bons sont pas. bon.
Après, Jonathan, tu prends un Sakai, je crois qu'il prend rouge au dernier match contre Trélissac. Il joue pas le week-end dernier. Au bout d'un moment, toi, il a quand même, il doit quand même être frais pour ce match et montrer autre chose que ce qu'il montre.
Ouais, il a quand même enchaîné. Et puis quand il va en sélection, ça fait des gros voyages.
C'est sûr.
Au Japon.
En revanche, là, pour moi, c'est plus problématique. C'est sûr que c'est sur Benedetto. Benedetto, tout le monde disait, ouais, les croisés, maintenant c'est fini, tout ça. Alors il est parti en fanfare et tout le monde était content et c'est vrai. Mais au bout d'un moment, t'as le coup de barre, c'est obligatoire.
Il y a deux choses, Damien.
Barre, tu l'as maintenant.
On va parler de Benedetto, des attaquants marseillais, Germain Benedetto dans un instant. Les stats de Benedetto qui sont celles d'un attaquant très moyen en Ligue 1, actuellement, deux buts, je crois, à vérifier sur
il
les 17.
Il marche bien au début,
mais depuis, c'est très compliqué.
Il y a des raisons.
Pour lui, merci Nono.
Ciao Nono.
Merci
d'avoir appelé au 32-16.
Bah, je vous dis encore une fois, une bonne santé, meilleurs vœux, puis vive l'OM, et j'espère que tout se passera bien pour Marseille, parce que l'histoire de Villas-Boas, franchement, c'est vrai qu'avec Zubizarreta, et puis l'histoire de Mike Court et puis Hero, là, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on a un bon club et tout, on est là, voilà, les supporters sont toujours derrière leur club et tout, voilà, et moi j'aime pas quand je vois des trucs comme ça c'est.
Je te conseille juste, reste avec nous, écoute-nous, continue de nous écouter, on va en parler.
On va en parler dans un instant.
Passe un bon et on embrasse tes potes à Saint-Vallier. Alors aussi.
Excellente soirée, Nono. À toi, tu viens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Excellente soirée. Nabil, le 32-16, supporter de l'OM également. Voilà. Bonsoir, Nabil.
Bonsoir, messieurs.
Salut Nabil.
Ça va ?
Ça va, très bien.
Bon, est-ce qu'il n'est pas un peu boursouflé ce score de 3-0 là, face à Granville ?
Honnêtement, je ne m'attendais pas à un score aussi large. Je pensais vraiment à 1-0, parce que les matchs de Coupe de France, Marseille ne brille pas souvent. Donc je voyais plutôt un 1-0. Bon, 3-0, c'est très bien. Je pense que le rouge y a été pour grand-chose. Après, ils étaient très, très fatigués, les joueurs de Granville. Et Marseille, bon, n'a pas fait un mauvais match, ils n'ont pas fait un grand match non plus. Je rejoins Jonathan sur la première mi-temps, c'était pas terrible. Après, sur la deuxième mi-temps, bon, ils ont fait le travail. Voilà, la logique, elle a été respectée. C'est pas un match qu'on va retenir, mais bon, voilà, on est qualifié, c'est principal.
Et voilà, après la ville. T'as pas tort, hein, tu sais, au bout d'un moment, quand tu es l'OM et que tu joues une N2, l'important, c'est sûr que c'est de passer. Mais après, sur le contenu, on est là quand même pour en discuter. Et tu regardes tu vois que l'OM marque 3 buts que quand l'équipe adverse est à 10. Et avant, ils avaient du mal à créer un décalage, ils avaient du mal à se créer quelque chose dans le jeu. Le but qui marque, le premier but, c'est sur, je crois, un retour de coup de pied arrêté.
C'est ça.
Il y a ça. Et puis, les occasions que tu as eues, c'est sur des frappes de 25 mètres ou 30 mètres de Bouba Camara.
Ce qui me dérange sur la première mi-temps, en fait, quand Nono, l'auditeur précédent, nous disait, oui, Marseille a eu des occasions. Oui, mais des occasions, c'est quoi? C'est un coup franc de Dimitri Payet et c'est des phrases de l'extérieur de la surface de réparation de Rongier et de Lopez. Le problème, je pense que c'est un problème d'homme, c'est pas forcément un problème de système, mais je pense que quand tu as Kevin Strootman qui ne démérite pas parce qu'il est passeur sur le but d'Alvaro, mais c'est qu'au milieu de terrain, quand il faut accélérer et il n'y est pas. Bah, chose que Bouba Camara
fait que des passes latérales, jamais passe vers l'avant.
C'est pour ça.
Il se met entre les deux défenseurs centraux alors qu'il n'y a aucune raison, tu n'as aucun pressing adverse et il se permet de descendre parce que c'est facile pour lui toucher des ballons dans cette position.
C'est ce que je te dis.
Voilà.
C'est exactement ce que
je dis. Il se met en danger.
Et ça force Dimitri Payet à redescendre trop bas chercher les ballons.
Nabil.
Non, moi, ce que je trouve très dommageable sur ce match, c'est le nombre de jeunes qu'on prend. On est en retard sur le nombre de ballons, on a pris des jeunes pour rien, gratuitement, et ça risque de pénaliser pour les prochains matchs.
Samson, il va être suspendu.
Il y a Samson, il y a Strootman qui en prend un, Gonzalez, il en prend un.
Il y a Sakai aussi qui en prend un.
Sakai en prend un.
Alors,
c'est beaucoup de jeunes, je trouve, dans un match qui devrait être maîtrisé de la tête aux pieds, mais bon. C'est pas le cas, mais c'est habituel avec l'OM en Coupe de France.
Après, Nabil, ce qu'on peut voir, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est que, alors, t'avais une machine qui est à peu près bien rodée, et dès qu'on fait un changement ou deux changements de poste, t'as l'impression que c'est un peu, c'est moins fluide quand même. Dès que t'as Bouba Camara qui redescend en défense centrale, et forcément, t'as Strootman qui joue, c'est plus compliqué dans les sorties de balles. Galeta Sarr qui aujourd'hui forme une bonne charnière avec Alvaro.
Pas rapide, mais assez solide.
C'est solide quand même. C'est cohérent, ce que je veux dire. Dès que t'as un grain de sable, il y a plus de certitude.
Ce que j'aimerais voir et qu'on n'a pas encore vu, c'est un milieu, ou si on l'a peut-être vu, mais c'était dans l'époque où ça marchait pas trop, il n'y avait pas Dimitri Payet, il me semble. J'aimerais quand même voir une formule avec Rongier, Lopez et Samson, si tu veux forcément. C'était à l'époque où ça marchait pas très bien, où Payet était pas là, était suspendu, il me semble. Et j'aimerais bien revoir.
Je suis pas très fan de cette composition. Moi, j'aime bien Camara, Rongier et Samson.
Si Camara n'est pas là, évidemment, Nabil. Si Camara est là, il faut que Camara joue.
Il faut un Camara en point de basse pour vraiment tout couper.
Parce que là, par exemple, tu vois, je l'aime beaucoup, mais allez, on va en parler. On va parler des choses qui fâchent, mais le match de Max Lopez sur un côté, moi, je suis pas du tout convaincu.
Non, mais c'est pas son poste.
C'est pas son poste, et il est déjà pas forcément dans une très bonne phase en ce moment. Ça lui rend pas service. Alors forcément, t'en as besoin parce que ta profondeur de banc n'est pas très justement profonde. Mais voilà, il y a trop de joueurs sur ce match-là qui sont passés à travers, et ça donne un match ultra poussif, même si le score est flatteur.
Et au bout d'un moment, Max Lopez, tu le fais pas jouer ce genre de match, tu le fais jamais jouer en fait.
Ouais, mais
c'est ça le souci. Le maître obligé de le faire jouer, même Germain, t'es obligé de le faire jouer.
Ouais, mais Damien, le maître ailier, il a pas les qualités pour jouer à ce poste-là, même contre une nationale. Mmh. Il est bon. Là où on a tous trouvé qu'il avait quelque chose d'un petit peu différent, c'est quand il commence, c'est avec Michel ou Rudy Garcia. Avec Rudy Garcia, il avait un peu joué avec Michel. C'est vraiment au milieu de terrain, à côté de la Sanadjera, plus bas, là où t'as un mec qui était la Sanadjera, qui lui faisait le ménage devant lui, et là où il peut faire parler sa vision du jeu.
En deuxième mi-temps, il a joué plus à son poste, hein, quand même. Hein. T'as Valère Germain qui a décalé côté, et lui, il était plus,
ça restait un 4-4-2. Ouais. C'était un 4-4-2. Non, c'était un jeu à côté quand même.
Ok, les gars.
Il a changé de système. Au milieu de la première mi-temps. Au milieu de la première mi-temps, il a repositionné les joueurs.
Ouais. Nabil, merci.
Oui.
Merci Nabil.
Merci.
Excellente soirée à toi. Vous. Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Nabil.
Salut.
Excellente soirée. Donc, dans un instant, bien sûr, on continue hein, le débrief du match de l'OM. On va parler des attaquants marseillais. Ah. Valère Germain et également Dario Benedetto en panne d'efficacité. Comment terminer sur le podium avec une attaque aussi fébrile.
Est-ce que toi t'es efficace?
Aussi peu efficace. Écoute, les chiffres d'audience. Médiamétrie l'a dit mardi. Non, c'est pas vrai, je sais pas. Mais l'after, on le dit nous aussi le week-end, hein. L'after hein, grandit encore une fois. Première radio de France tous les soirs à la radio. Hein. Première radio de France, eh oui. C'est devant tout le monde.
Bravo.
C'est un plaisir. Là, ce que vous dites, messieurs, c'est
merci à vous.
L'émission la plus écoutée à l'heure actuelle en France.
Bah, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous les gens qui nous
exactement,
écoutent.
Et qui nous appellent également. Beaucoup d'appels de supporters marseillais déjà au 32-16. Loïc, Yacine arrive dans un instant. Le débat sur les attaquants à Marseille. Comment faire avec Dario et Valère. Et également les infos mercato. Et un petit bijou. Un petit bijou. Vous allez voir, on a un document à vous faire écouter. Magnifique. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jama.
Avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinet, l'after est là jusqu'à minuit. Évidemment, on revient sur la victoire, la qualification de l'Olympique de Marseille pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Tiens, mais Marseille, enfin, qui passe des 16e, hein.
Dossier qui passe.
Huitième de finale. Deuxième qualifié après Pau, qui a battu les Girondins de Bordeaux, éliminé les Girondins de Bordeaux hier soir.
Ça va?
Tout va très bien. Tiens, messieurs, avant d'accueillir Yacine au 32-16, puis Loïc également qui nous a appelé, alors, c'est pas très confraternel ce que je vais faire. 69e minute de jeu ce soir à Caen entre Granville et l'OM. Changement, d'accord. Valère Germain est remplacé par Nemanja Radonjić. Écoutez notre camarade de France Télévisions qui annonce.
Et la sortie de Florian Thauvin avec l'entrée de Nemanja Radonjić.
Valère Germain qui sort, Arnaud.
Oui, parce que Florian Thauvin, il va bientôt rentrer, on l'espère pour lui.
Voilà, bon.
Alors, Nemanja et Florian Thauvin. Ouais, bon, ok.
Soit bon, non, mais c'est pas. Bon, allez, on le salue, évidemment. J'en parle parce que Thauvin, qui a beaucoup d'esprit et d'humour, visiblement en tout cas, a tweeté il y a quelques minutes. Très content d'avoir pu rejouer aujourd'hui. Bravo à tous les gars pour la victoire. Astérisque, c'est ce que j'aurais dit si j'écoutais les commentateurs de France TV.
Bravo,
voilà, Flo. C'est bas, la classe. Voilà. Bonsoir, Yacine.
Salut Yacine.
Allô Yacine, tu nous entends?
Oui, je vous entends les gars.
T'es bien là.
Hey Yacine, salut.
Bienvenue dans l'after, Jonathan Macardy, Damien Perrinet, t'écoute. Bon, victoire méritée, évidemment, pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que t'as aimé le match avant le rouge, en fait? C'est ça qui m'intéresse. Avant le rouge de CA.
Le match avant le rouge était un petit peu pourri, entre guillemets, mais là où je suis vraiment pas d'accord avec vous, les gars, c'est que vous parlez de fébrilité. Il ne faut pas confondre suffisance.
On n'a pas dit ça.
On n'a pas parlé de fébrilité du
tout. Attends, Yacine.
Non, parce que vous êtes.
On n'a pas dit ça?
Vas-y, Yacine, explique-nous.
Vous avez parlé d'une défense fébrile et de joueurs un petit peu plus faibles que d'habitude, je me trompe?
On n'a pas parlé de défense fébrile, Yacine.
D'accord, bon, bah, c'est moi et mon imagination. Je vais quand même continuer juste sur le fait que, effectivement, les joueurs étaient ultra suffisants. Bon, parce que voilà, c'est un match de Coupe de France. En face, c'est une N3. Les mecs, voilà, ils sont deuxième de Ligue 1, ils y vont tranquille. Après, la première mi-temps était un petit peu ennuyante, si je puis dire. Après, à partir du carton rouge, effectivement, le tournant du match, comme vous l'avez souligné.
Exactement.
C'est venu tranquille, quoi. C'est venu doucement. Ouais. À la fin, ça fait 3-0. Et puis voilà, il n'y a pas de quoi en faire. Enfin, je me trouve quand même un petit peu...
Alors Yacine, j'aimerais ajouter une petite précision sur ce que tu viens de dire. C'est que moi, j'ai trouvé que Marseille, en première mi-temps, ce qu'on disait, c'est qu'ils ont été trop inoffensifs et ont manqué de créativité dans les 30 derniers mètres. Les occasions, c'est un coup de pied arrêté, des frappes lointaines. Mais Marseille était quand même là au pressing et à la récupération. Par contre, c'est au retour des vestiaires en seconde mi-temps, jusqu'au carton rouge. Là, j'ai trouvé que les ingrédients qui avaient un peu positifs de la première mi-temps, à savoir aller au pressing, être présent pour essayer de récupérer le ballon assez haut, avaient disparu. Et que Marseille affichait un visage vraiment médiocre du retour des vestiaires au carton rouge.
Même au-delà de ça, je sais même pas si c'est de la suffisance en fait. Ils ont pas affiché pour moi de la suffisance en première mi-temps. Ils ont juste affiché un manque d'imagination. Hein. Ils se sont pas approprié ce match. Et au bout d'un moment, quand tu joues contre un bloc resserré dans l'axe, et ben au bout d'un moment, faut peut-être écarter au maximum, passer sur les côtés, trouver des joueurs lancés sur les côtés pour mettre à mal une défense. Voilà, en fait, si tu veux, c'est là où il y a une nuance. Et quand je te parle des latéraux, c'est le rapport offensif. Il est pas assez présent ce soir.
Yacine, je vais te poser une question.
C'est pas de la fébrilité défensive.
Plus général, en rebondissant sur ce que vient de dire Damien, qui est très juste, on est d'accord que tu peux pas. Marseille a des gros problèmes dans la construction du jeu et que les mots sont rédhibitoires et récurrents. C'est-à-dire que Marseille n'a pas de latéral au niveau.
Alors ça, c'est le fond de jeu de l'Olympique de Marseille. Hein, faut pas être surpris. On a toujours, ça a toujours été comme ça.
Mais c'était
à un moment donné, faut l'accepter. Il faut se dire que voilà, on joue comme ça et c'est notre jeu tout simplement.
Est-ce qui fait que t'es en difficulté contre deux équipes qui sont regroupées derrière? C'est le problème aussi.
Je suis d'accord avec vous. Et Jonathan, juste un truc, je crois que c'était Jonathan.
Ouais.
Il parlait de Dario Benedetto un peu en mode, c'est vrai qu'il est un peu perdu, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais je te garantis que là, le prochain match, je crois, si je me trompe pas, on reçoit Angers. Voilà. Franchement, dépendance Payet, d'accord, mais Benedetto, pardon, il en mettra un ou deux. Facile. Et si je me trompe, Jonathan, je t'invite à la maison prendre un couscous.
Eh ben, tu sais pourquoi j'adore ce que tu me dis? Parce que d'une part, s'il en met un ou deux, ça fait qu'il s'approche encore plus des 10 buts. Et là, Daniel, en début de saison, m'a dit, il mettra même pas 10 buts en Ligue 1, Dario, je te parie un déjeuner dans un resto étoilé. Donc, du coup, je mangerai bien. Et après, je sais pas où t'habites, mais je prendrai le train ou l'avion et je viendrai manger le couscous chez toi, mon pote.
Prends le train, c'est mieux.
Yes. Bon, voilà, c'est tout.
Merci, Yacine.
Laisse tes coordonnées au standard parce que je vais vraiment en venir. Hein.
T'habites où, Yacine?
Je suis pas très loin du studio, je suis à
Boulogne-Billancourt. Ah bah
c'est bon,
facile. Ah bah j'ai en moto.
Bon, on va venir à plusieurs finalement. En fait.
Et Damien, on va venir aussi.
Yacine, est-ce que
Harry sa maison, hein.
Est-ce que tu accueilles les chiens?
Les chiens devant la porte, ouais, pas de problème.
Donc Marinette devant la porte pendant qu'on mange.
Et Harry sa maison, Yacine, hein.
T'inquiète pas, c'est pas, y a pas de problème.
Allez, à la bonne heure, mon pote. Tu laisses les coordonnées
tout de suite.
Au standard. Mais moi, je dis jamais non à un bon couscous.
Très bien.
Et ben voilà.
Merci Yacine, excellente soirée à toi.
Ouais,
est-ce que tu dis qu'il aime le couscous, forcément Yacine?
Mais il vient de me proposer un couscous.
Ah, j'ai pas entendu.
Mais c'est lui qui a proposé.
C'est lui qui a proposé.
C'est le plat préféré des Français, les gars.
C'est très très bon. Excellent couscous. Messieurs, on a également Loïc au 32-16. Bonsoir Loïc.
Salut messieurs.
Salut Loïc. Bienvenue dans l'after. Alors attendez, je lis quelques tweets, messieurs, parce qu'on nous trouve un petit peu sévère avec l'OM. Arnaud nous dit sur l'hashtag RMC Live, vous allumez l'OM, mais série en cours de 11 matchs sans défaite malgré tout, dont 10 victoires, continuez.
Mais est-ce que on a allumé, on parle objectivement du fond de jeu?
Pardon, je te coupe, mais ça m'insupporte. On se gargarise de 11 matchs sans défaite. Mais regardez les matchs, les gars, les supporters. On est tous des supporters, on est passionnés et on a autant de caractères différents qu'il y a de supporters. Donc c'est dire vraiment la complexité.
Tu me plais, Loïc.
Les supporters marseillais. Mais arrêtez de vous gargariser pour pas dire autre chose. C'est une autre expression que j'allais dire, de vous toucher. Mais sans déconner, 11 matchs. Mais faut voir les matchs. Qui lui cru qu'on gagnerait à Rennes? On n'est pas bon.
Les gars. C'est vrai les gars que depuis la victoire contre Bordeaux, avec une première période compliquée, on n'a pas revu le Marseille qui était en progrès
fin 2019. Je vais aller dans le sens de Loïc. Loïc, t'as totalement raison.
C'est que
il y a plusieurs facteurs à analyser. Le premier, c'est le niveau général de la Ligue 1, les concurrents directs normalement pour la place sur le podium qui n'y sont pas. Le deuxième, c'est que Villas-Boas arrive quand même à maximiser le groupe, la qualité du groupe qu'il a à sa disposition. Mais le troisième point, qui est quand même important de souligner et qu'on ne souligne pas assez, parce que alors même chez nous, certains constants, mais je pense qu'ils regardent pas les matchs. Le fait est, et Loïc a raison, que dans le contenu, Marseille, même depuis le début de la saison et même sur cette série incroyable de victoires, c'est pas flamboyant du tout, parce que cette équipe a quand même des très gros points faibles en termes d'effectifs. On parlait des latéraux, mais ça c'est quand même hyper important. Et on a fait nous changer les moyens.
Attends Loïc, vas-y, Damien,
nous on parle surtout de la qualité de jeu. En termes de victoire, ok, t'as gagné des matchs, mais t'as gagné des matchs contre qui? Contre Brest, contre Toulouse.
Ah, dans la série à Lyon, il y a Bordeaux.
Alors ça c'était au tout début, mais là sur les derniers matchs où la qualité de jeu justement se dégrade, tu joues contre, tu joues à Metz, tu joues à Nîmes, tu joues à Trélissac, et il y a Rennes où t'as une victoire un peu miraculeuse la semaine dernière. Mais au-delà de ça, en termes de qualité de jeu, t'es en droit d'attendre mieux quand même.
Exactement.
Et ça masque, je trouve que ces victoires justement masquent pas mal de carences. Aujourd'hui, on parle moins des carences de l'OM grâce à ces résultats.
Mais comment tu vas régler les carences en tout cas?
Et ben,
comment tu vas les combler ces carences à Marseille?
C'est très simple.
Tu fais quoi?
Non mais c'est très simple.
C'est le Messi Tovin qui arrive dans un mois.
J'aimerais avoir l'avis de Loïc, mais avant ça, je vais te dire, faut mettre Dimitri Payet dans du coton. Et puis espérer qu'il continue sur sa lancée avec l'espoir
c'est
pour
quoi,
lui.
C'est cool, mais dans du coton, en fait.
Bah non, mais qu'il se blesse pas, en gros. Je vois,
ah, là, mais déjà, ça, tu calcules pas.
Déjà, je suis très inquiet parce qu'il va être suspendu contre Angers et compter sur un retour de Thauvin rapidement. Mais toi, Loïc, tu ferais quoi? Quels sont les points d'amélioration selon toi?
Ah, bah déjà, faudrait penser à recruter des latéraux.
On est d'accord. Alors, Loïc, on est d'accord que ça n'arrivera pas, je crois.
Non, mais c'est sûr, on le sait que ça n'arrivera pas. Mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on a des soucis dans le secteur offensif, chez les latéraux. Enfin, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. On l'a pas découvert hier matin, quoi. À un moment donné, il faut peut-être se donner les moyens d'incorporer des mecs qui pourraient avoir le niveau et les essayer. Et puis, il faut qu'il y ait de l'idée quand on joue au football. Il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut que quand le porteur de balle, il ait du mouvement. Regarde, typiquement, en deuxième mi-temps, le porteur de balle n'avait aucune solution. Milieu, ça décrochait pas pour venir chercher.
Ouais, c'est vrai.
Les latéraux n'allaient pas se plonger dans le couloir. Quand Germain a joué faux ailier à droite, il était à l'angle de la surface. Comment tu veux écarter un bloc, le bloc de l'équipe adverse?
Aujourd'hui,
là, je joue en district et eux, c'est des pros.
Loïc,
quand même, ils doivent avoir une culture tactique, ces mecs-là.
Aujourd'hui, la plus grosse force de l'OM, j'ai envie de te dire, c'est peut-être sa défense centrale et sa sentinelle. Aujourd'hui, qui te cadenasse tout. Et derrière, t'as quand même Sanson
et Rongier.
Et Payet.
Ouais.
Mais en gros, t'as un cœur de jeu qui est très fort, t'as un axe qui est très fort, et ensuite par contre tout ce qui est autour, aussi bien devant que sur les côtés, c'est là que c'est plus difficile. Et aujourd'hui, Villas-Boas, là où il a été performant, c'est qu'il a trouvé au moins son noyau, son ossature.
Mais vous avez totalement raison.
C'est là où ça
pêche. Moi, Loïc, je sais quoi.
De Noël, tu es solide. Comme un sapin de Noël, tu es solide.
Ouais, t'as le tronc qui est solide, mais
Loïc, t'aimerais pas. Moi, j'aimerais au moins le voir essayer. T'aimerais pas voir le petit Nils Nkunku quand même et faire au moins, tu vois, leur match de coupe comme ça à la place de
Jordan
Mavi.
C'est là qu'il faut les tester.
Il est quand même bon, Nkunku.
C'est là qu'il faut les tenter, quoi.
Il est pas mauvais, Nkunku, en plus. Hein.
Il a de grosses qualités. Enfin, ces gamins-là, s'ils y sont, c'est qu'ils ont à minima des qualités. Tu vois?
Donc ouais, il faut lancer
un message fort aussi.
Par exemple, un Christopher Rocchia que j'aime beaucoup, je pense qu'il était peut-être un petit peu, tu vois, il manquait peut-être un petit quelque chose pour avoir le niveau de l'équipe première. Mais au moins, il a été essayé, Christopher Rocchia.
Exactement.
Moi, j'aimerais qu'un Nkunku, on l'essaye.
Il a un souci physique. Il se pète très, très vite. C'est ça qui a été
Rocchia
dommage.
Ouais, c'est vrai.
Bon, les gars, Loïc, reste avec nous parce que, on a débriefé la victoire de l'OM face à Granville avec vos réserves, malgré tout la qualification pour les huitièmes de finale. Parlons également, parce que vous n'étiez pas là cette semaine dans l'after, messieurs, et toi, Jonathan, de la conférence de presse de Villas-Boas. Ah ouais. Malheureusement, on pourra pas la diffuser parce qu'on a des problèmes techniques depuis le stade à Caen. Michel Dornano. Loïc, tu vas me donner ton avis également là-dessus. Tiens, notamment le Gosbo sur HKM Selef qui nous dit
bon, lui.
Demn, je n'imagine même pas cette équipe-là avec ce niveau-là en Champions League la saison prochaine.
Mais il a raison, le
c'est un peu le sujet de la semaine à Marseille.
C'est un bon le Gosbo. Suivez-le
parce
sur Twitter.
Que clairement, bon, on le sait, à Marseille, le faible financier, a priori 60 millions d'euros de déficit à la fin de la saison. Il va falloir rentrer dans les clous financiers. Villas-Boas a mis la pression, en tout cas, à évoquer son avenir. Pas qu'à demi-mot, plus qu'incertain à l'OM si le sportif n'est pas mis en avant au détriment de l'aspect financier. Vas-y Jonathan.
T'oublies juste, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a aussi cette rumeur qui semble être plus qu'une rumeur selon laquelle Jacques-Henri Hérault aurait réuni les salariés du club cette saison pour leur dire que la priorité n'était pas la qualification en Ligue des Champions, mais de retrouver l'équilibre financier. Alors écoute, il y a deux choses à voir. Pour moi, de toute manière, je l'ai dit, Jacques-Henri Hérault est un des pires, si ce n'est le pire président de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il n'a rien à faire à ce poste-là. C'est le pire président de Ligue 1. Si c'est une imposture, c'est quelqu'un qui est totalement perdu, qui n'assume rien. Et je pense que je lui ai assez tapé dessus pour voilà, je vais pas en remettre une couche ce soir, mais
c'est
tout ce que j'en pense, ce que je pense de lui. Le deuxième point, c'est je pense que Villas-Boas, tu vois. Alors quand j'ai vu ces déclaration sur de prime abord, j'étais un petit peu énervé parce que je me suis dit voilà, tout va bien, est-ce que tu peux pas laver le linge sale en famille au lieu de mettre le feu comme ça en conférence de presse, tu sais que c'est Marseille, que forcément on va en parler. Je trouve que ma première impression c'était de dire aussi oui, bah t'es vachement égoïste quand même de nous, enfin voilà, de parler de ton cas personnel, de laisser planer le doute selon laquelle tu vas partir. T'as quand même une saison à faire, le groupe a l'air de bien vivre, même si c'est un cliché, mais là je pense que le groupe vit vraiment bien, t'es vraiment en train de créer quelque chose avec ce groupe-là, une histoire, et comme ça de mettre sur la table, voilà, un petit peu de mettre toi sur la table, ton avenir en disant peut-être que je peux partir, etc. J'ai trouvé ça de prime abord un petit peu limite et j'ai même été un petit peu déçu. Après, en y réfléchissant,
il le fait parce que le timing est bon, il est fort, il n'a jamais été aussi fort cette
en
saison.
Y réfléchissant, je me suis dit mais en fait je me mets à sa place, le mec il bosse d'arrache-pied, il a quand même il est au charbon, c'est lui qui a ramené Pipa Benedetto, c'est lui qui a ramené Alvaro, il fait avec un effectif qui est très limité, il est deuxième, et ben franchement moi si j'étais à sa place avec le boulot que je fais avec des incompétents pareils au-dessus de moi, mais j'aurais pété un câble depuis plus longtemps.
Jonathan,
alors je pense que Villas-Boas a raison.
Jonathan, Damien, tu dis que c'est Villas-Boas qui a fait les recrues Benedetto, qui a fait les recrues Alvaro.
Oui,
c'est ce que tu dis.
C'est
donc en gros il sert à quoi Zubizarreta?
Non les gars, c'est aussi Zubizarreta. Attendez, Zubizarreta, ils sont mal à dire sur les recrues, hein.
Non mais ce que je veux dire,
ils viennent en consultation avec Zubizarreta.
Alvaro, oui.
C'est Zubizarreta.
Alvaro, oui.
Non, Alvaro, c'est André Villas-Boas par son réseau d'agents, et Zubizarreta a organisé la transaction. Mais c'est lui qui s'est.
Rongier, c'est Zubizarreta.
Rongier, c'est Zubizarreta. Mais Pipa et Alvaro, c'est AVB qui dit je veux ces deux joueurs.
Vas-y, aller au bout de mon raisonnement. Donc en gros, ce qui pose le problème, c'est la nomination d'Aldridge, c'est ça, pour c'est ça. Vendre des joueurs
en Angleterre,
et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand t'es Jacques-Henri Hérault, tu vois la balance commerciale de tes transferts, tu vois que ton directeur sportif, il t'a recruté des joueurs, il en a vendu aucun. Et au bout d'un moment, tu te poses des questions sur la légitimité de cette personne dans ton organigramme. T'es d'accord avec moi? Après, moi, ce qui me chagrine...
Je te répondrai après,
ouais,
mais...
Après, moi, ce qui me chagrine dans ça, c'est dans quel club tu as vu que c'est l'entraîneur et le directeur sportif qui mettent un coup de pression au président.
Ça, je suis d'accord.
Ça n'existe nulle part
là-dessus.
C'est-à-dire que si t'es président, au bout d'un moment, tu veux taper du poing sur la table, va jusqu'au bout et va voir ton entraîneur et tu dis, écoute, maintenant, si t'es pas content avec ma direction, avec ce que je fais, tu t'en vas, il n'y a pas de problème, et on trouvera une autre solution.
Les gars, je...
t'es le patron, t'es le boss, va jusqu'au bout. Nico, même si tu vas dans ta connerie, va au bout de ta connerie.
J'imagine déjà qu'il est presque détesté par tout le monde à Marseille.
Et donc dans ce cas-là, qui
s'en prend à Villas-Boas, qui est devenu presque une icône maintenant à Marseille, comme l'ont été Bielsa.
Tu ne fasses pas la connerie de mettre à Aldridge
avant. J'attends, je veux juste te répondre, Damien, sur deux points. Le premier point, c'est que oui, Zubizarreta, moi je l'ai beaucoup cassé du sucre sur le dossier. Je l'appelais même Pénélope Zubizarreta, je pensais qu'il avait un emploi fictif. Après, il faut dire que là, la tâche qu'il a eue cet été de vendre des joueurs, elle est quand même un petit peu compliquée parce qu'on lui demande de vendre des joueurs que lui n'a pas fait venir, qui ont été surpayés par l'entraîneur précédent Rudy Garcia en concertation avec le président.
Il était là quand même.
Oui, bah oui, mais il servait à rien.
Bah on lui donnait pas la parole.
Non, mais on lui donnait. Oui, bah peut-être. Ça, c'est un autre problème. Donc là, tu lui demandes de vendre des joueurs que lui n'a pas fait venir et qui ont été surpayés. Et moi, je pense que ça, cet état de fait, c'est de la faute de Jacques-Henri Hérault qui a donné les pleins pouvoirs à Rudy Garcia, qui a voulu se mêler du mercato alors qu'il n'y connaît rien au foot, mais absolument rien. Et après, ce que tu dis, qui est quand même très intéressant sur le fait que ça se voit pas, enfin que le président, tu dois le respecter, que dans une entreprise normale, l'entraîneur, le directeur sportif ne se permettrait pas de critiquer ouvertement le président en public. Moi, je te dis juste, je suis d'accord avec toi, sauf que Jacques-Henri Hérault est à un tel niveau d'incompétence crasse que ça me semble tout à presque légitime. Que l'illégitime devient légitime tellement Jacques-Henri Hérault est nul.
Loïc, ton avis là-dessus?
Alors, je suis d'accord avec vous deux, bizarrement. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que...
T'es François Bayrou, toi, mon pote.
Non, mais dans le sens où Jacques-Henri Hérault, il est là pour la thune. Pas pour s'en mettre plein les fouilles, pour gérer de l'argent, pour faire du business. Seulement, à l'OM, on n'a jamais fait une réelle vente. Quand tu vois Payet,
Zambo,
on le vend 15 millions, on
ça
le rachète
peu,
deux ans après, le double, comme si on avait acheté un Château Margaux, tu sais, une bouteille de vin. On est nul. On sait pas, on achète des joueurs au prix fort, on les vend 3 francs 6 sous. On n'est pas bon. Je pense, moi, qu'il faut, I have a dream, juste avoir une équipe, une ossature, un organigramme avec des gens compétents, ouais, des professionnels de leur poste. Zubizarreta, quand il est arrivé, on s'est dit, putain, le type, il sort de Barcelone, il va avoir un carnet d'adresses, on va avoir des jeunes en prêt, des jeunes espagnols, des jeunes des latins, des mecs d'Amérique du Sud.
Ouais.
On va tout casser. Seulement, on n'a rien eu. C'est sûr que quand il était à Barcelone, il avait un carnet de chèques qui était bien plus épais. Et quand c'est Barcelone qui t'appelle, tu écoutes différemment de quand
aller chercher Suarez, c'était
c'est
facile. Hein. Aller chercher Suarez à Liverpool, c'était facile, les gars. Non mais moi, Loïc, je te pose une question parce que là, je pense qu'on en est à un tel niveau d'incompétence à la direction de l'Olympique de Marseille. Est-ce que t'as pas l'impression qu'ils sont tellement nuls que Vincent Labrune et José Anigo c'était des génies? Quand il pense à côté d'eux,
tu vas un peu loin.
On
n'en
est pas loin parce que quand même, la Brune, il a jamais proposé à ce qu'on change les règles du football et qu'un but marqué à 30 mètres, ça va être.
Loïc, Nico rigole, mais je te rappelle juste que Vincent Labrune et Anigo, qui ont été fortement critiqués, ont ramené des joueurs pour 3 francs 6 sous et des joueurs qui ont été survalorisés. Regarde Imbula, Benjamin Mendy, même les Valbuena, les Caboré, c'est José Anigo et Vincent Labrune. Donc faut pas tout jeter dans la direction précédente.
Et notre ami Jacques Henriot, il a vendu Zambonguissa 18 millions d'euros, c'est énorme.
Plus même, non?
18,
c'est plus.
Mais il a recruté un type à 500 000 euros qui fait pas deux passes d'affilée vers l'avant.
Pourquoi il n'y a qu'à Marseille que ces choses-là se passent? C'est-à-dire que tu as Bielsa qui part en conflit contre Labrune à l'époque. À l'époque, tu avais Deschamps qui part en conflit contre José Anigo, qui part en conflit contre Labrune. Eh, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
il y a un problème de leadership de direction.
Club mais et gangrène chronique par les égos.
Une réponse simple.
Très vite, après, on avance.
Depuis Pape Diouf, il n'y a pas eu un président valable à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est tout simplement.
Voilà. Merci Loïc.
Merci messieurs, bon courage.
Excellente soirée à toi, tu viens continuer au 15-16 bien sûr dans l'after. Messieurs, je vous rappelle également que Marseille l'a dit juste avant le match, va laisser la recette du match à Granville.
Et bah là, bon,
aux amateurs de National 2 de Granville, après l'épisode
donc,
et la polémique.
Ça veut dire que les finances vont mieux. Si
alors, ça, je sais pas,
il y a 15 jours.
Près 140 000 euros, je sais pas ce que ça va t'apporter non plus pour t'équilibrer par rapport au fair play financier. Tiens, également cette proposition, puisque tout à l'heure on t'a proposé un couscous. Rachid de Levallois nous dit: salut l'équipe de l'After, l'équipe de Choc, moi je vous livre le couscous en studio.
Oh là là, c'est un amour.
Donc rendez-vous pris si tu veux, Rachid, demain.
Allez, mon pote,
si
tu veux, pendant un quart d'heure ou soit.
Voilà, laisse ton numéro sur l'application Direct Studio et puis. Et tu mangeras avec nous, évidemment. Voilà, l'After revient dans un instant, on parle de Kato Ekambi. Probable futur attaquant de l'Olympique Lyonnais dans ce mercato d'hiver arrivé, sûrement annoncé. On travaille, un accord est proche. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamin.
Avec Damien Perinel, avec Jonathan Macardy. On aura un couscous sûrement demain, messieurs.
Ah
voilà. Merci à Rachid. On va lui répondre effectivement.
Arrête sa maison, hein.
Et il pourra venir. Il pourra venir même assister à l'After s'il veut. On va lancer l'invitation.
Alors, il suffit qu'on te propose un couscous et tu...
Mais non, mais Rachid, t'es un afterien.
Ah,
un afterien. Non, là,
il est pour quel club? Envoie-nous sur Twitter.
Ouais, dis-nous, Rachid, sur Direct Studio,
on va y réfléchir,
Direct Studio, quel est ton club? Voilà, donc messieurs, voilà pour l'OM. On en a parlé, qualifié pour les huitièmes de finale. Demain, la suite, bien sûr, avec moi, un Nice Red Star qui m'intéresse.
Yes.
13h.
Merci.
Au déjeuner, un petit Nice Red Star à l'Alliance.
Parfait.
Ce sera très bien. Karl Toko Ekambi, c'est un peu le premier vrai nom qu'on entend dans cette mercato d'hiver en Ligue 1. Faut-il le rappeler, ex-attaquant d'Angers, 17 buts, hein, saison 2017-2018, 17 buts en Ligue 1.
Bien sûr.
Attaquant de Villarreal, proche de Lyon. Alors Aulas, il temporise aujourd'hui. Hein. Jean-Michel Aulas dit qu'il discute effectivement avec Villarreal d'un prix avec option d'achat. Il est prématuré pour l'instant d'annoncer un accord.
Tu nous donnes ses stats cette saison?
Oui, statistiques, 18 apparitions, 11 comme titulaire, 6 buts de passe. Bon, clairement, quand Jean-Michel Aulas annonce qu'il y a un accord quasi proche, c'est que ça va se faire, a priori. Que faut-il en penser, messieurs? Bonne pioche, Damien? Karl Toko Ekambi?
Mais si on avait dit il y a 2 ans, ça fait 2 ans qu'il est à Villarreal. Hein,
2018,
ans, c'est ça. Et que si Lyon avait pris ce joueur il y a 2 ans, on aurait dit que ça aurait été un super coup pour Lyon. Moi, je pense. Aujourd'hui, de toute façon, quand on voit le prix des attaquants, le moindre attaquant qui marque quelques buts en Ligue 1 et que tout de suite ça part à des 30-40 millions, moi je me dis à 20 millions, pourquoi pas tenter le coup? De toute façon, on n'a pas besoin. C'est un joueur qui va peut-être se révéler, qui peut être bonifié à l'OL, je pense, style un Reine Adélaïde, et pourquoi pas.
Mais il n'a pas le même âge. Hein.
Pas le même âge, et plus vieux certainement.
27, 28.
Mais c'est un joueur, tu lui fais faire une ou deux saisons, ça peut être revendu éventuellement. Non, pour moi, je trouve que l'idée n'est pas sotte en soi de relancer ce joueur qui, en plus, n'est pas remplaçant.
Il y a deux choses, Damien. La première, c'est que je pense que ça peut être complémentaire de Dembélé, déjà. C'est un profil qui peut aller avec Dembélé. Après,
il a 27 ans.
Ouais, il a 27 ans. Après, est-ce que 20 millions, voilà, je te rejoins sur tout ce que t'as dit, mais je vais ajouter une chose, c'est que si ce Toko Ekambi arrive à Lyon, ça confirme bien une chose, c'est que le pouvoir décisionnel de Juninho est réduit à 0+0. La tête à Toto, c'est
attends,
totalement.
Il y a combien de décisionnaires? T'as Gérard Rouillet, t'as Florian Maurice,
voilà,
t'as Rudy Garcia.
Ouais.
T'as Jean-Michel Aulas.
Rudy Garcia est dans le game pour ça?
Oui, oui. Il est clairement sondé.
Mais,
on lui a proposé Rami, il a pas voulu Rami, par exemple, tu vois.
Nico, le problème, c'est qu'en début de saison, on nous annonce que Juninho arrive en étant patron du sportif. Il s'est passé ce qui s'est passé, le mauvais choix avec Silvinho. Mais ça veut clairement dire, et je l'analyse ni en bien ni en mal, je constate juste que, à mon sens, le choix de Toko Ekambi reflète le fait que Jean-Michel Aulas a repris la main sur les clés du sportif et que Juninho est là et fait de la figuration, du moins sur ce plateau hivernal.
À ses lieutenants, que ça
de toute façon, selon les finances de l'OL aujourd'hui et leur position en championnat, et tout, est-ce que tu penses qu'ils peuvent prétendre à mieux en tant que joueur aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'il y avait quoi à faire. Hein.
Ah, mais un Memphis Depay à l'époque à 15 millions, ça n'existe plus, ces opportunités dans la tendance des transferts actuels. En plus, c'est un prêt dans un premier temps assorti d'une option d'achat.
Pour prendre un petit ailier, moi, j'aurais bien prendre, t'es là en plus, c'est bien. J'irais bien, j'essaierais bien d'aller en MLS et prendre Christian Pavone, qui est à Los Angeles. Tu vois, je pense que c'est accessible en termes de finances pour l'Olympique Lyonnais, que c'est un investissement parce que c'est un joueur qui est jeune, que tu peux revendre et valoriser. C'est un international. Il a le profil pour jouer dans le système de jeu de Rudy Garcia. J'essaierais de faire preuve d'un petit peu plus d'imagination.
Ouais, mais c'est un mec qui va devoir s'adapter encore.
Ça. Après, le problème,
il est jamais sorti d'Amérique.
Et ce que je te dis, là où je t'enjoins, c'est que le problème, c'est que là, tu dois faire vite pour 6 mois et que sur 6 mois, forcément, t'es obligé de faire des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Donc, est-ce que Carl, de premier abord, j'étais un petit peu surpris par ce choix. Voilà. Mais en y réfléchissant bien, c'est intelligent. C'est intelligent, surtout si l'option d'achat n'est pas obligatoire.
Moi, je trouve que l'idée n'est pas sautée.
Je pense qu'il faut que si l'option d'achat n'est pas obligatoire, c'est un choix parfait. Moi, j'espère que pour Lyon, qu'elle n'est pas obligatoire. Parce que est-ce que c'est bien pour finir la saison, pour essayer de sauver les meubles? Oui. Mais est-ce que si tu te remets dans l'optique de construire un Lyon qui fait bonne figuration en Coupe d'Europe, est-ce que ce joueur-là a le niveau? Je te dis non.
Et même au-delà de ça, même s'il flambe sur les 5 mois restants, bah, tu dirais que 20 millions, bon, écoute, finalement, sur un mec qui marque 5-6 voilà. buts sur la phase retour,
faut pas que ça soit obligatoire. J'espère pour eux que c'est pas obligatoire, mais c'est un coup à tenter et les risques sont quand même minimes.
En revanche, pour tes ambitions en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est pas ce type de joueur
qui va te faire avec Dembélé, les gars, parce que j'imagine qu'il jouerait avec Dembélé.
Ouais,
je me remplaçant. Joueur rapide, hein.
Ouais.
Premier appui hyper rapide.
Je mets sur un côté.
Sur un côté, très bien, ouais.
Ça peut être descendre.
Non, mais moi, je trouve que le profil, c'est bien vu. Après.
Tu faisais penser à Nicolas Pépé un peu dans le profil, hein.
Ouais. Par contre, Damien, qu'on soit bien clair, hein, leur ambition Ligue des Champions, blessure de Memphis et de Reina Dalid ou pas, tu tombes contre la Juve, fais ses cunus au lit, bonsoir Clara, non, tu t'en vas.
Hein. Comparé aux prestations qu'on a eues contre l'équipe B de Leipzig à domicile, tu dois quand même montrer autre chose.
On est
d'accord. Dans le parcours européen, ça fait un peu tâche quand même, la manière dont c'est qualifié.
Ouais.
Pitgo est en colère sur Direct Studio, hein, Jonathan, il nous dit, mais comment on pouvait dire ça? Aulas fait tout. Non, tu crois que Aulas fait tout, mais arrêtez, Juninho s'occupe du dossier, il va pas le tenir au courant de son boulot.
Alors, tu rêves, Jonathan. J'aimerais qu'on sache juste si Carl Toko Ekambi est vraiment une idée de Juninho. Voilà, c'est tout.
Voilà.
Peut-être oui, hein, je sais pas.
Voilà, donc pour Toko Ekambi, plusieurs infos également. Tiens, messieurs, Robert Berić, c'est vrai qu'on le voyait plus. Hein.
Il part en MLS.
Tu veux dire, ça vaut quoi les Chicago Fire? 2 millions d'euros pour Saint-Etienne, départ de Berić.
Déjà, c'est assez rare que la MLS investisse sur des joueurs, donc 2 millions.
2 millions, c'est beaucoup pour MLS ou pas?
Non, alors après, il y a eu des transferts en Amérique du Sud à 15 millions, notamment. Oui, il y a eu Pavone. Ouais. Celui qui est parti à Newcastle, là, qui est très bon. Désolé. Chicago Fire, c'est un club qui est en pleine reconstruction, qui va déménager de son stade, qui va maintenant intégrer un immense stade. C'est un club de Schweinsteiger.
Exactement.
Et donc vraiment renouvellement pour cette franchise.
Et tu dois partir en MLS, tu choisis quel club toi?
Moi j'irai à Los Angeles pour aller au Château Marmont boire des coups tous les soirs.
Précision, hein.
Moi je fais les Red Bull.
Bien sûr.
Comme Damien.
Mais quand t'es une star, tu choisis pas.
Par contre, tu vis où toi? New Jersey.
New Jersey.
Bon, sympa.
J'avais la vue sur New York, c'était magnifique.
quoi, à 20 km?
Non, mais l'autre, côté, loin, l'autre, c'est côté, ça l'autre côté de la Seine new-yorkaise.
Los Angeles, le soleil, pouvoir rouler en Harley sans casque tout le temps.
Mais New York, attends,
aller faire finir au Château Marmont, moi je fais ça tous les jours. Alors juste pour sur Robert Berich, juste un, tu me permets.
C'est hyper triste de le voir partir. Ils ont fait un resto hier avec lui, tous les joueurs.
Laisse-moi faire un petit moment.
Une pizzeria à Saint-Etienne.
Almiron, Newcastle.
J'ai envie de faire un petit coup de cœur sur Robert Berich, qui est un des joueurs que j'appréciais le plus en Ligue 1.
Du derby, hein.
Ouais. Alors pourquoi je l'appréciais beaucoup, c'est que je pense que lorsqu'il est arrivé à Saint-Etienne, il m'avait laissé une impression vraiment extraordinaire. J'avais rarement vu un attaquant venir dans notre championnat et comprendre directement la Ligue 1 comme ça. Je pensais vraiment que c'était enfin le numéro 9 que Saint-Etienne cherchait depuis des années. J'étais très impressionné par Robert Berich. Malheureusement, vous allez dire que j'en fais trop, mais non, c'est vraiment l'impression, et je pense qu'on avait tous cette impression lorsqu'on l'a vu arriver à Saint-Etienne. Malheureusement, il y a eu cette blessure tacle de Jordan Ferry. On l'a plus jamais revu à son niveau, et je pense que l'histoire devait se terminer. Mais beaucoup de regrets, parce que je pense qu'il aurait pas eu cette blessure, ça aurait été un des attaquants qui aurait flambé dans notre
super mec également.
Super mec, apparemment, mais au bout d'un moment, quand les coachs se succèdent et que t'es toujours.
Mais bien sûr, mais oui, ça, je l'envoie. Il n'est jamais revenu de ça, il a jamais su revenir de ça.
Il restera, bref, voilà. L'homme du derby qui a battu Lyon 1-0 en octobre. Il rentre, il marque. Merci, au revoir.
Bravo.
Pour Robert Berich, qui part aux États-Unis. Tiens, Christophe Galtier également, coach de Lille, qui a confirmé la signature imminente de Thiago Maia, 22 ans à Flamengo. Alors, c'est un prêt, hein. Deux ans et demi au Brésil. Il a dit, c'est un garçon très pro. Il a simplement besoin de retrouver confiance et de jouer.
Mais
12 millions d'euros, le garçon.
Rappelons-nous quand
cher, 12 millions d'euros, il n'est pas vendu. Hein.
Non mais les gars, quand Thiago Maia arrive, on nous disait que le Paris Saint-Germain aussi était dessus. Apparemment, PSG était aussi dessus.
Pour l'instant, c'est un échec.
Et il a totalement déçu. Et il y avait Thiago Maia et Thiago Mendes qui sont arrivés en même temps. Thiago Mendes est arrivé un petit peu sous le radar et finalement, c'est lui qui a explosé.
Tiens, Lévin Kurzawa discute bien avec Arsenal. Une offre devrait être transmise au Paris Saint-Germain dès cet hiver. Ces dernières heures, Kurzawa a changé d'agent pour rejoindre Sports Invest UK.
Très bien pour lui. J'ai du mal à croire qu'il ait perdu toutes ses qualités comme ça.
Et selon nos informations, Arsenal et Kurzawa ont avancé sur les contours d'un contrat de 5 ans.
C'est bien.
Jackpot.
C'est quand même curieux de changer d'agent pour aller dans un club.
Pourquoi?
Peut-être qu'il y a des facilités.
Vas-y,
de réseau.
Non, peut-être qu'il y a certains agents qui ont des intérêts à Arsenal et que c'est plus facile d'avoir accès au club d'Arsenal en passant par ces agents aussi.
En tout cas, moi, je refuse de croire que
Kurzawa. S'il te plaît, change d'agent, bosse avec eux. Ouais. Comme ça, on prend.
Je refuse de croire que le Kurzawa qui était à Monaco, qui était vraiment très fort et perdu toutes ses qualités, je pense que Paris, c'était pas fait pour lui, qui s'est peut-être laissé un petit peu happé par la vie parisienne, par son style vestimentaire de merde aussi, il faut le dire. J'espère que ça va changer. Je suis très content pour Kurzawa s'il peut changer de club, changer d'air, parce que voilà, je pense qu'il a
quand même un gros potentiel. Il y a un an et demi déjà.
Exactement.
Ça fait un an et demi qu'il doit partir.
Mieux vaut tard que jamais, mon pote.
Mais sur un emploi fictif qui s'arrête également, Naldo quitte Monaco.
Ouais, bah.
37 ans.
Il quitte, mais chapeau. Parce qu'il va retrouver un club à 37 ans et il va être encore grassement payé. Je crois qu'il part en Chine, c'est pas
ouais,
ça?
A priori, c'est en Chine, ouais.
Eh ben, sois pas jaloux des gens qui font
ça. 37 ans.
Bravo à ses agents.
Un dernier super contrat à 37 ans, c'est magnifique.
Magnifique.
Ouais. Ordinaire.
Plus dans les plans de Manchester United également, malgré son capitaine Ashley Young, qui rejoint, comme on l'avait déjà dit, l'Inter jusqu'en juin prochain, avec une saison en option.
Très bien.
Et vous savez quoi? En fait, je trouve que Ashley Young, en fait, à lui seul, montre le déclin de Manchester United.
Exactement.
Parce que qu'un joueur comme ça soit aussi longtemps dans un club comme Manchester United et qu'il soit capitaine de ce club-là, en fait, je trouvais ça un peu bizarre.
Est-ce qu'on n'a pas le déclin de l'Inter également qui recrute un joueur à 34 ans?
L'Inter est premier aujourd'hui, quoi, et en haut du classement.
Bien sûr. Montpellier a annoncé le recrutement d'un attaquant ce soir. Alors, personne n'avait vu venir. C'est un attaquant international sud-coréen. Yoon Il-Lok. 8 sélections, un but. Il arrive des Yokohama Marinos. Voilà, c'est la première fois de sa carrière qu'il va quitter l'Asie.
On verra.
On verra bien.
Ils auraient besoin d'un remplaçant, d'une alternative.
Toujours un peu à Paris, c'est vrai, quand un joueur qui quitte un autre continent pour venir en Europe, c'est pas simple de réussir.
Les Sud-Coréens qui sont arrivés en France.
Wang, pour l'instant, bilan mitigé à Bordeaux.
Ouais, mais c'est quand même bonne surprise, quand même, parce qu'on n'y attendait pas.
C'est pas si mal.
Souk aussi, il a quand même fait 2-3 trucs corrects.
Non, mais pourquoi il n'y aurait que les Tottenham ou que ces clubs Manchester United à l'époque qui pourraient faire des bons coups comme ça? Allez, on peut essayer.
Mais Eindhoven également. Tiens, messieurs, également, là, je voulais lire cette information. La Fédération française de football a maintenu la suspension de Fred Dambi. Vous savez qui c'est, Fred Dambi? C'est l'attaquant du FC Rouen qui a pris un carton jaune et donc une suspension pour le prochain match contre Angers en Coupe de France. D'accord, un match important pour Rouen parce qu'il avait retiré son maillot pour rendre hommage à son ami Nathel Julan, décédé dans un accident de voiture. Le joueur de Guingamp, vous rappelez? Ils avaient fait appel. Finalement, la Fédé a dit non, tu ne joueras pas. Fallait pas faire ça. Tiens, même dernière info rapide, Mamadou Sakho a été cambriolé dans sa grande maison du sud-ouest de Londres. Maison louée par Nicolas Nelka, qui avait déjà lui-même été cambriolé. 600 000 euros, le dégât.
Allez. Coupe. Mais rendez-vous là tout de suite pour le RMC Fighter Club. Un gros, gros, gros preview du combat de Conor contre Cowboy Cerrone demain. On s'est régalé à enregistrer
l'émission. Conor McGregor.
Avec Brahim Asloum et Philippe Bass et Arthur.
Le rendez-vous est pris, Jonathan. Et demain soir, l'after également, dès la fin du match entre l'OL et le FC Nantes, la suite de la Coupe de France. Merci Damien.
Merci à vous.
Demain. Ciao,
ciao. Ciao les gars, à demain, les amis.
RMC. L'after foot.